Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Emmanuel Guattari, bonjour.
Bonjour.
Et donc, merci de prendre du temps pour venir nous parler de votre dernier et premier livre, La Petite Borde, qui vient d'être publié au Mercure de France. Alors déjà, c'est un vrai plaisir de lecture, je voulais vous le dire pour commencer. Et alors moi, la première question que j'aurais à vous poser, c'est que bon, en lisant ce livre, clairement, on est face à une autobiographie. Et pourtant, quand je regarde la couverture du livre, je vois marqué « roman ». Alors en fait, c'est une interrogation pour moi. Pourquoi ? Alors c'est un choix éditorial, c'est vous qui avez tenu à fictionnaliser en fait
Il y a véritablement un choix éditorial, mais je pense que même si je m'appuie sur un vécu réel hein, et des éléments autobiographiques, j'ai quand même beaucoup transformé le réel volontairement pour le plaisir de la fiction, par amour de la langue et aussi parce que j'ai voulu ressaisir une psyché d'enfant. Et n'étant plus un enfant, en tout cas pas officiellement, là, j'ai vraiment travaillé sur cette voix d'enfant qui tout de même est une voix qui est difficile à ressaisir. Et il me semble que dans ce sens-là, c'est un travail plutôt romanesque.
D'accord, mais si je vous dis que c'est une autobiographie, vous ne le prendrez pas mal
On
quand
peut
même.
Dire un roman autobiographique, si ça peut faire un compromis,
une
ça ne me gêne pas.
Une autofiction, il y a plein de termes pour désigner
pas,
tout ça.
Pourquoi pas, de toute façon, le livre existe et si vous voulez, il a quand même déployé ce que je voulais, c'est-à-dire autre chose que du souvenir et aussi beaucoup de fantaisie que j'ai voulu y mettre.
Alors justement, comment est née l'idée de ce livre ? C'est votre premier roman, donc, et pourquoi maintenant ? Est-ce que c'était une nécessité, une urgence, ou juste une envie ?
Les choses parfois se font comme elles se font. C'est vrai que moi, je n'avais pas particulièrement ce but d'écrire un livre. J'aimais beaucoup les histoires en général, raconter des histoires, absolument.
Ça se voit.
Voilà, et en fait, il est né... Il y a une petite origine qui était une lettre que j'avais faite, comme d'autres enfants de la clinique de la Borde, sollicitée par la clinique de la Borde pour défendre le projet de la garderie, qui est sur le site, une petite maison dévouée, dédiée aux enfants. Et pour soutenir cette présence, cette ultime présence des enfants sur le site de la clinique, qui, moi, me semblait résiduelle par rapport au mélange, quand même, hein, qui a été notre enfance, eh bien, j'avais fait une lettre, et cette lettre... avait plu, ce serait une partie de l'origine, disons. Et puis après, il y a le temps qui passe, la beauté de cette institution et mon souhait sans doute de rendre hommage à cette geste assez extraordinaire.
Alors justement, cette institution, alors nous, Tourangeau, on a la chance de connaître un peu cette aventure quand même, qui a été fondée par votre père, par Deleuze, par des gens que l'on connaît.
Par le docteur Horry.
Aussi. Voilà, et du coup, nous, on est quand même quelques-uns à avoir suivi cette aventure, mais pour les auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas cet endroit, donc qui est la Borde, dont vous reprenez le nom dans le titre, en vous assimilant et en
Absolument.
Vous fusionnant avec cet endroit.
Oui.
Et on peut dire qu'effectivement, c'est peut-être presque le personnage principal de votre livre. Avant ou juste après vous
C'est en tout cas un point de vue. La Petite Borde, c'est un peu le pied dans la porte de la Borde pour un angle de vue particulier.
C'est ça. Et du coup, cet endroit, alors, qu'avait-il de particulier pour des gens qui ne connaîtraient pas ce qui s'y est fait, ce qui s'y est passé ? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ?
Alors, la Borde existe toujours, ce qu'il faut dire. Hein, et bien, la Borde est évidemment, dès son début, une aventure extraordinaire, puisque c'est le pari qui est fait de créer un lieu de circulation pour les malades mentaux. C'est-à-dire, c'est un lieu de soins, hein, véritablement, avec des médecins, des infirmiers, des gens qu'on appelle des moniteurs, etc. Mais on peut y circuler, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de costume, on ne demande pas aux pensionnaires de vivre en pyjama, ou tout le monde est en habit de ville, ce qui, quand on négocie, c'est aussi une blague, puisqu'il y a une indistinction qui peut être... comique, sinon troublante. Et Et donc, c'est un lieu qui fait le pari de rendre la circulation et la parole aux malades mentaux et qui a une organisation, on va dire, collective qui permet aux gens de se recomposer, à des gens qui ont souvent subi des enfermements assez terribles. Et donc, la Borde fait ce pari-là. C'est un pari très audacieux à l'époque, avec très peu de moyens. Mais la vitalité et l'intelligence et l'énergie d'une très jeune équipe qui a fini par être nos parents, mm-hmm. mais nous ne sommes pas arrivés sur place, c'est une question qu'on m'a aussi posée. Et c'est-à-dire que c'est une équipe très enthousiaste de jeunes gens autour du docteur Horry et de mon père Félix Guattari. Et puis au bout d'un moment, forcément, il y a des rencontres, etc. Et les gens font le pari de la vie et ces enfants qui naissent vivent sur le site de la clinique. On avait chacun des logements individualisés, mais nous vivions dans une certaine collectivité avec les pensionnaires, puisque nous avions le droit de circuler, nous aussi, aussi bien que les pensionnaires. Et puis, nous allions à l'école, mais nous revenions le soir et pouvions circuler dans le parc, qui était un parc immense. C'est un lieu extraordinaire pour vivre une enfance. Et nous avons bénéficié de l'humanisme généralisé du lieu.
Et alors justement, ces relations avec les pensionnaires, c'était quoi? De la complicité, de la peur peut-être parfois, de comment ça se passait?
On avait ce que j'appelle un naturel averti, c'est-à-dire qu'on était absolument conscient qu'on était dans un hôpital psychiatrique, mais on avait véritablement une relation humaine hein, avec ces gens. C'était des gens pour nous, et ils portaient des noms, on les connaissait, enfin je veux dire, c'était... Alors maintenant, il y avait des choix électifs, comme dans toute vie en communauté. Il y avait des gens qu'on ne fréquentait pas pour des tas de raisons, leur caractère, etc. Et puis des gens qu'on affectionnait. Il y avait des gens qui étaient particulièrement sensibles aux enfants, qui s'arrangeaient toujours pour nous donner une petite pièce. C'était très beau parce que la présence des enfants avait ce que j'appelle ce coefficient thérapeutique. C'est-à-dire, nous, on venait avec notre fraîcheur, notre vitalité, notre joliesse d'enfant, etc. Et je pense qu'on apportait ce que l'on apporte dans n'importe quel endroit. Les enfants, moi, je trouve c'est merveilleux. Et je pense que la Borde avait raison avec précaution néanmoins, mais quand même de laisser circuler les enfants. Et je pense que c'était une des très belles époques de la Borde.
Alors, au niveau de l'écriture même de votre livre, vous avez fait un choix narratif qui est de ne pas respecter de chronologie. En fait, on n'a pas de narration linéaire avec, je sais pas, des dates, etc. Il y a une espèce même d'atemporalité où, à la limite, ça pourrait être aujourd'hui, il y a 50 ans, etc. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix d'écriture?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose sur cette question des temps et de la temporalité, c'est vrai que je pense que l'on est constitué de temps qui sont superposés, chacun de nous. Et c'est d'autant plus vrai quand on est un adulte, qu'on vous demande d'être un adulte et on vous dit vous n'êtes plus un enfant, tandis que quand vous êtes un enfant, vous n'êtes pas encore un adulte. Il y a une espèce de... J'ai joué là-dessus, sur le fait que quand on est adulte, moi je pense qu'il y a l'enfant en nous quelque part. Et donc j'ai effectivement beaucoup permuté les événements, les jeux d'époque, on va dire. Même si je pense qu'il y a une teinte quand même hein, dans ce livre, il y a une teinte générale de cette époque des années 60 et de ces expérimentations, et qu'on la traverse hein, au gré du livre. Et puis la deuxième chose, c'est que ça, c'était pour répondre sur la question des temps. J'avais dans la lettre que j'avais faite à l'origine, qui était très classique pour raconter la garderie à une administration, j'avais fait une lettre très très, on va dire très normale, et je trouvais que ça ne rendait pas justice au foisonnement de ce lieu, à sa richesse, à l'imagination et à la magie profonde du lieu. Et donc j'ai voulu, avec l'écriture, essayer de ressaisir ça. Et en écrivant de façon, on va dire, beaucoup plus didactique, du type « Je suis née en 1964 », j'ai l'impression que ça diluait. Et j'ai voulu rester dans une intensité. Et c'est ce type de petits chapitres où à chaque fois il apparaît une scène qui surgit et qui, qui rencontrent, d'un rapport entre les personnages qui apparaissent, etc.
Oui, s'il y a toute une galerie de personnages, et du coup, ça crée une sorte de kaléidoscope
justement.
Qui, petit à petit, par touches successives, avec des tableaux impressionnistes, va créer un ensemble, mais effectivement, qui sort du temps par moments aussi.
C'est vrai.
Je trouve ça assez beau. Alors, on a aussi quand même, la présence de la Seconde Guerre mondiale qui est là, finalement, qui est peut-être le seul repère chronologique que vous citez à plusieurs reprises.
C'est vrai.
Alors, notamment par rapport à votre mère.
Oui.
Et justement, cet épisode que vous citez par rapport à votre mère, qui est raconté un peu à la façon d'un conte, votre mère qui se promène dans la forêt quand elle est petite, etc., fait surgir, donc, cette figure maternelle qui a une place, moi, je trouve très tendre et très touchante dans votre livre, et qui est aussi le seul moment où vous parlez de vous au présent, en fait.
Absolument, absolument, parce que j'ai voulu... Il y a des tas de choses dans ce que vous me dites, je vous en remercie. D'abord, c'est la question du deuil. Le deuil est un ressaisissement du passé. Moi, je trouve qu'il y a un mystère. Il y a le mystère de la disparition dans le deuil, et c'est ces choses qui ne sont plus et qu'il faut accepter de lâcher. Donc j'ai voulu rendre compte de ça avec un espèce de souhait comme ça un peu tragique de faire revenir les morts d'entre les morts, et la magie du fantasme, c'est qu'on peut, et a fortiori avec l'écriture, on peut faire beaucoup de choses. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a véritablement dans les années 60 une imprégnation générationnelle. Moi, j'ai voulu rendre compte de cette mémoire familiale qui était très prégnante, qui ressemblait parfois à une sorte de litanie aussi, mais moi qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup captivée. Ça a dirigé mon goût vers l'histoire, j'ai fait des études d'histoire, ça a vraiment été mon premier... J'ai été un récipient très, très patient de ces espèces de remâchages de souvenirs familiaux qui font aussi les pics d'une famille. La guerre est un phénomène, en fait, un événement extrêmement anthropologique pour une génération. C'est peut-être que notre génération ne se représente pas, même s'il y a des gens qui ont vécu la tragédie de la guerre d'Algérie plus proche de nous. Mais je veux dire, nous n'avons pas vécu la guerre comme l'ont vécu nos aïeux, nos parents, etc. Et moi, ça a été très fondateur. Et puis, j'ai voulu jouer là-dessus, sur la question du conte, parce que tout s'est mélangé dans mon enfance, ces histoires qu'on ressassait à table, les contes qu'on me racontait. Il y avait des grands méchants loups, des méchants, des bons, des princes et des princesses, et en plus on vivait autour d'un château
singe. Oui. Donc la fantaisie et le conte étaient là aussi dans votre vie, finalement.
Exactement. Voilà, tout s'est mélangé, et puis j'ai injecté aussi des animaux volontairement dans ce texte, parce que je crois que on oublie, nous en tant qu'adultes, combien l'animal est important à hauteur d'enfant, et je trouvais formidable que les animaux puissent prendre le pouvoir, et le rat prend le pouvoir, le singe prend le pouvoir. Voilà, j'ai voulu jouer pour montrer que cette force, cette espèce de plein pied qu'a l'enfant avec la question de l'animal, qui, au demeurant, dans les contes, l'animal, il parle, il est beauté, il est quand il échappe beauté, etc. Et on oublie ça quand on est un adulte. Mais l'enfant, lui, il est tout mélangé.
Vous nous le rappelez, du coup, merci.
Je vous en prie.
Et vous parliez de votre rapport à l'histoire, et il y a aussi un rapport à la politique, alors qui est ténu dans votre livre, mais qui est présent, alors notamment à travers un épisode où vous racontez que votre mère cache des documents dans les couches de votre frère. Est-ce que vous sentiez, vous, en tant qu'enfant, que c'était un lieu politique, un lieu où il se passait des choses à part ?
L'engagement politique peut être vécu hors hôpital psychiatrique. Il y a des tas de gens dont les parents ont été des militants actifs. C'est vrai que mon père était à la fois un penseur, une personne engagée en psychiatrie, mais aussi un homme très actif dans le militantisme. Et nous, on en a vite pris conscience, parce que c'est très concret, une perquisition, c'est extrêmement concret, c'est chez vous, etc. J'ai voulu mettre en scène ce militantisme, mais partagé, car ma mère, j'ai trouvé, et bien c'est ça, c'est des choses que l'on réalise souvent avec le temps qui passe et en devenant soi-même parent, j'ai trouvé stupéfiant le courage de ma mère engagée, à la bord dans une aventure psychiatrique extraordinaire, y élevant ses enfants, accompagnant mon père qui était quelqu'un d'extrêmement énergique, foisonnant, etc. Et au cours de la guerre d'Algérie, impliqué dans des activités politiques que je dévoile pas parce qu'enfant on est aussi quand même dans quelque chose d'assez global. Et j'ai voulu, j'ai joué dans cette scène, j'ai voulu rendre l'intelligence de ma mère, c'est-à-dire c'était une intelligence de femme, c'est-à-dire que dans cette perquisition, on lui demande « débrouille-toi, cache ça », parce que c'est le « ça » au demeurant, et elle les cache dans un geste de femme, dans là où un homme n'ira pas chercher,
oui.
Car à l'époque, les hommes ne changeaient pas. J'ai beaucoup pensé cette scène pour essayer d'y mettre tout l'hommage que je voulais rendre à ma mère.
Et la place des femmes dans cet endroit, c'était quoi ? La place des mères ?
Mais justement, c'est un lieu très moderne pour l'époque, parce que c'est les femmes qui travaillaient à la borde et qui, au début, donc, vivaient sur place avec leur mari. Et certaines, la plupart ayant fait des enfants. Et c'était très moderne parce qu'elles avaient un statut égal à celui des hommes. Donc véritablement à compétences égales, statut égal, il y avait des femmes médecins, il y avait des brillantissimes, il y avait des monitrices comme ma mère et d'autres personnes, etc. Et ce qui était moderne, c'est qu'on pouvait à la borde, comme il y avait une lingerie, on pouvait donner son linge. Et bien sûr, puisqu'il y avait une lingerie pour les pensionnaires, on pouvait aller chercher son plateau à la cuisine. Donc on pouvait aussi, finalement, vivre une vie assez féministe, au fond, même si c'est prématuré de parler de féminisme.
Voilà. Je suis navrée. Je crois qu'il va falloir qu'on se quitte.
Mais non,
vous êtes attendue sur le plateau de TV Tour. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir. Merci pour votre premier livre, La Petite Borde, qui vient donc d'être publié au Mercure de France. Thank you.